Chers amis de la FADA, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à la FADA d'aujourd'hui, l'émission jeune du studio Kalongo qui pimente vos week-ends. Je suis Samira Rouafi pour la présentation de ce soir et le thème d'aujourd'hui porte sur comment les jeunes journalistes travaillent-ils au Niger après le coup d'État. Et moi déjà que le Niger a changé de régime depuis le coup d'État survenu le 26 juillet dernier. Les premiers sur qui les regards se tournent, ce sont les journalistes, car on compte sur eux pour faire passer une information sûre et fiable. Mais toutefois, nous le savons tous, c'est un temps dans lequel le journaliste doit savoir où mettre les pieds, surtout ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Chercher à avoir la bonne information est de ce fait très délicat. Déjà, il y a trop de fausses informations qu'il faut vérifier dans un premier temps et ce n'est pas toute information reçue qu'on peut partager. Il suffit de peu pour que le château s'effondre. Une petite information partagée peut ternir la réputation de l'employeur, la crédibilité de l'employé et même être confronté à des problèmes judiciaires. Tout ceci nous amène à nous poser les questions suivantes. Comment les jeunes journalistes travaillent-ils en cette période? À quoi faut-il faire attention? Comment garantir leur stabilité? Eh bien les amis, la réponse à toutes ces questions et bien d'autres, c'est dans un instant avec nos invités du jour à la FADA. Surtout n'oubliez pas mes chéris, tous à la FADA, c'est de la chronique, la musique et une rubrique rose. Tout ceci en 35 minutes chrono, c'est parti. Chers amis, aujourd'hui nous avons posé nos chaises et notre terre ici au studio Kalangu pour parler du thème « Comment les jeunes journalistes travaillent-ils après le coup d'État survenu au Niger ?» Pour en parler, nous avons comme invité des confrères venus de différents médias. Nous avons Souleymane Bra qui est journaliste, Abdelkader Mahmoudou, journaliste à Niger 24, Ousmane Mahmoudou, chef du desk numérique et reporter d'images du studio Kalangu. Je vous souhaite tous la bienvenue à la FADA.
Merci.
Merci.
Alors, je vais commencer par vous, Ousmane Mahmoudou. Comment est-ce que vous travaillez depuis les récents événements?
Alors, bonjour à tous. Moi, je suis désolé pour les auditeurs armaphones parce que moi, mon arma, franchement, il n'est pas bien posé. Mais effectivement, Samira, ce que tu dis, c'est... Malheureusement, on va dire, le pays traverse actuellement une période difficile sur le plan politique, etc. C'est un peu compliqué avec les événements, mais nous, au niveau de la rédaction, en tout cas, les journalistes de l'équipe web numérique, et je pense que mes confrères qui sont là pourront le confirmer aussi, c'est qu'on voit de plus en plus, c'est tout à fait normal aussi, beaucoup d'informations qui sont pas vérifiées, qui circulent beaucoup. Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau, encore une fois. Les fausses informations, les rumeurs, c'est des choses qui existaient il y a des centaines d'années, des millénaires peut-être. Mais aujourd'hui, la grosse différence, en fait, pourquoi ça a de l'impact, c'est parce que aujourd'hui, c'est le volume et la vélocité. Donc le volume, la quantité des informations qui sont produites, la vélocité, la rapidité, c'est-à-dire avec laquelle ces informations-là se propagent, elle est gigantesque. C'est quelque chose d'exponentiel qu'on n'a pas encore vu, en tout cas dans l'histoire récente de l'humanité. Il y a beaucoup de guerres.
Et vous pensez que c'est dû à quoi?
Alors, c'est dû au fait que les gens se posent beaucoup de questions, qu'ils voient beaucoup d'images. Et à la base, il ne faut pas en vouloir aux citoyens parce qu'ils ne sont pas des journalistes, ils ne savent pas. Certains, certains vont partager des informations qui sont fausses sans le savoir. Certains vont le faire de façon exprès. Etc, etc. Donc certaines personnes aussi vont se mettre à produire et ce qui a aussi changé, c'est la façon de produire l'information, parce qu'avant la production de l'information c'était réservé à, on va dire, à quelques journalistes, si je caricature un peu, quelques journalistes qui sont des journalistes qui ont un canal pour diffuser télévision, radio, oui, journal, radio. Papier. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, presque tout le monde a tous les outils nécessaires pour faire ça.
Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Kader. Irba Irmbeizakan, coup d'État au quartier Niger Laboramat, qui n'a pas encore été dans le Niger 24.
Merci Samira, mais je crois que en général là j'aurais un peu de difficulté aussi. Hein,
alors allez-y, vous avez
oui,
la parole.
En fait, c'est
allez-y.
Ça en fait. Bon, vous savez, avec ce coup d'État, bon après ce coup d'État, avant même le coup d'État, il y avait la situation de l'insécurité qui est là. Donc il y a une crise. Donc le coup d'État, ça n'est suivi encore des manifestations, de soutien, ainsi de suite. Donc nous sommes maintenant dans un régime d'exception. Donc nous, on travaille quand même tout en étant vigilant dans ce régime. Puisque surtout, des fois, surtout quand on sait que les fausses informations là sont diffusées, sont véhiculées, sont diffusé par des gens, surtout lors des périodes de crise, généralement. Et ça se propage comme ça, à une vitesse inexplicable. Donc du coup, maintenant, c'est à nous quand même d'être beaucoup plus vigilants pour ne pas tromper quand même aussi nos auditeurs, ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même difficile, d'autre part, puisque maintenant, aujourd'hui, il y a des publications qui se font sur les réseaux sociaux qu'on attribue deux fois à des journalistes.
Exactement.
Ce qui n'est pas normal, puisqu'il y a pas mal de gens qui ne font pas la différence entre journalistes et blogueurs, journalistes et activistes, journalistes et internautes. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est la responsabilité des journalistes qui est engagée pour faire face à ces phénomènes de fake news.
Alors, Kader, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait une différence entre ce que le journaliste a produit et ce que quelqu'un a pris pour copier et attribuer à un journaliste? Comment vous faites pour garder cette fiabilité-là, pour ne pas qu'on doute de vous?
Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle le fact-checking. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile pour un journaliste de se fier d'une information balancée ou d'un contenu publié par quelqu'un. Tu peux faire tes propres recherches et tu identifies d'abord la source, puisque la source, après la source, il faut une autre source encore, il faut chercher une autre source. Vérifier l'auteur encore du contenu qui a été publié pour t'assurer quand même de la crédibilité de la source. Vous voyez, donc il faut des vérifications avant de prendre en compte une publication qu'on a ramassé sur les réseaux sociaux, puisque c'est un peu risqué d'utiliser, de travailler avec les informations du réseau social. C'est un peu compliqué.
Merci beaucoup. Bref, je reviens vers vous. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous vivez cette situation depuis que le coup d'État a eu lieu?
Merci beaucoup. Bon, la situation, on peut dire que c'est l'actualité qui a évolué. Sinon, en tant que journaliste, nous faisons effectivement notre travail, mais quand il y a une nouvelle donne, il va de soi qu'il y ait beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup d'infos. Et c'est ça peut-être qui différencie avec les autres événements. Maintenant, la vérification déjà fait partie du travail du journaliste. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque, comme l'a dit Kader, un journaliste, quand même, il vérifie l'information avant de la balancer. Donc, il collecte, il traite et il diffuse.
Et en tant que journaliste, quand on vous appelle pour vous demander est-ce que c'est vrai, quelle sera votre première réaction?
Mais la première réaction, déjà, on considère qu'au même moment qu'ils ont vu cette information, vous-même, à votre niveau, vous avez déjà vu cette information et vous avez peut-être pris les devants pour aller vérifier. Donc la première chose, c'est d'abord de conseiller à ces personnes. Bon, voilà, si on reçoit une information, il faut d'abord prendre le temps de vérifier, de vous dire vous-même est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ainsi de suite. C'est après quoi vous allez un peu le dire, bon, voilà, en ce qui concerne cette information, vraiment elle n'est pas fondée, c'est vraiment une rumeur. Il faut chercher d'abord à expliquer, à sensibiliser les gens et après de leur dire, mais pas directement, non, c'est faux, non. Il ne faut pas rentrer dans ça, il faut prendre le temps un peu d'expliquer à la personne.
Ok, merci M. Brown. On va en revenir sur les questions, sur les conseils plutôt. Je reviens vers vous, M. Ousmane. Et comment est-ce que, quel est votre rythme de travail ici au studio Kalangou? Parce que vous dirigez un desk où déjà il y a la partie numérique, il y a aussi la partie sortir et ramener des images. Comment est-ce que vous travaillez depuis ces récents événements?
Alors, depuis l'événement, alors moi je pense que quand même le contexte il a vraiment changé, parce que on fait beaucoup de fact-checking. Et ce qu'on a remarqué ces dernières semaines, c'est qu'il y a vraiment un flot des informations qui est là. C'est presque un flux continu. Tout le temps, vous avez des rumeurs, des vidéos, des sons qui passent, etc. Et donc, dans ce cas, quand vous êtes dans une rédaction, et c'est le cas aussi de beaucoup de journalistes au Niger, une rédaction où il y a finalement peu de journalistes, donc on est en nombre réduit. Donc, le fact-checking, c'est un boulot qui demande beaucoup de veille. Il faut rester sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Qui fait quoi pour collecter les fausses infos et éventuellement les démonter, comme on le dit dans le jargon. Donc, c'est ça. Donc, à partir de quand vous décidez, par exemple, de traiter une des infos, parce que de toute manière, il va falloir faire une sélection. On ne pourra pas traiter toutes les fausses informations qu'on va voir. Et les journalistes, quelque part, là je ne parle pas au nom des journalistes de Studio Kalangou, mais j'ai l'habitude de former beaucoup de journalistes, de nos correspondants qui essaient aussi de faire du fact-checking. C'est que finalement on voit que, en tout cas pour le cas du Niger et aussi un peu dans la sous-région, aujourd'hui les journalistes, ils sont un peu démunis. C'est vrai que le travail du journaliste, c'est d'abord de la vérification. Nous, on n'est pas là pour raconter nos vies. Oui. C'est de l'information vérifiée, c'est des faits qu'il faut donner à la population. Mais les journalistes sont démunis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est des nouveaux formats qu'ils ne connaissent pas forcément. Et c'est des nouvelles manières aussi de démonter l'information. Peut-être qu'on n'a pas appris souvent dans les écoles de journalisme. Et c'est quelque chose qui change tous les jours. Donc, vous pouvez apprendre une manière de vérifier une image, une photo aujourd'hui. Demain, elle peut totalement être obsolète. On l'a vu, pour ceux qui font en tout cas du fact-checking, depuis que Monsieur Musk, Elon Musk, donc le patron de Tesla, etc., a acheté Twitter, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils de vérification qui dépendent de Twitter qui ne fonctionnent plus. Parce que Elon Musk a décidé de couper ce qu'on appelle l'API, donc c'est une petite brique logicielle en fait qui permet de faire le lien entre ce que fait Twitter et les outils que des journalistes ont développés, par exemple pour suivre des tendances, pour suivre des profils spécifiques ou pour chercher une information exacte. Donc tout ça aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. On ne peut plus faire aujourd'hui de la veille avec TweetDeck, par exemple, un outil que tout le monde connaît. Donc il y a ce problème, cette problématique-là de la disponibilité des outils et de leur maîtrise même par les journalistes. Et on doit aussi choisir dans ce flot continu de désinfos, qu'est-ce qu'on doit traiter, qu'est-ce qu'on ne doit pas traiter. Il faut faire la part des choses. Et nous, la question qu'on se pose, et évidemment la question que beaucoup de journalistes se posent aussi, nous c'est simple. Toutes les désinfos qu'on va traiter, on se pose la question, qu'est-ce qui se serait passé si on n'a pas traité cette info-là, si on n'avait pas fait ça. Donc, à partir de ce moment-là, on va décider de traiter une info X, une info Y. Et je le disais, les outils changent quotidiennement. Actuellement, WhatsApp, ça part dans tous les sens. Pareil pour TikTok. On voit beaucoup de montages, de vidéos, etc. qui partent dans TikTok. Et je le disais aussi au début, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, les outils d'édition, avant qui étaient réservés aux journalistes, aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'outils disponibles, oui, sur un téléphone qui vont vous permettre de modifier une photo, de modifier un texte, de modifier un son. Et récemment, on a vu aussi plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont venus et qui vont aussi compliquer la tâche, le travail des journalistes, parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'imiter, de dire à un logiciel d'imiter la voix de quelqu'un. Très facile. Ou de générer de fausses images avec les outils de génération d'images type Midjourney, etc., etc. Donc nous, au niveau de la rédaction, ce qu'on fait, on fait beaucoup de veille. On regarde, on est à peu près sur tous les réseaux, sur tous les canaux pour voir. Et à partir du moment où on a trouvé l'info qu'il faut traiter, on se dit comment est-ce qu'il faut le faire. Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question, comment on fait? Oui. Mais comment vous faites justement pour faire la différence? Parce que dans le fact-checking, il y a aussi une partie du fact-checking qu'on appelle le tutoriel. Okay. Donc, quand vous faites la démarche de démontage d'une fausse info, la personne qui le lit, vous devez aussi lui fournir tous les outils, toute la démarche pour que lui aussi, il soit capable de répéter cet exercice-là. Okay. Encore une fois, les journalistes, nous, on est là pour vérifier des faits. Cette voiture est bleue, c'est un fait, elle est bleue. Cette voiture n'est pas belle, ça c'est une opinion. Et ça, c'est pas nous, notre travail à nous. Donc ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire un maximum d'explications tout en démontrant la démarche pour que les auditeurs ou en tout cas les lecteurs sur notre site puissent eux aussi la répéter. Et c'est très important pour nous d'être aussi à la radio. Parce que tous les Nigériens ne sont pas forcément sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais quand même, beaucoup de Nigériens, et je parle sous le contrôle de mon ami, beaucoup écoutent la radio. La radio, c'est vraiment l'un des médias les plus solides au Niger. Donc, il faut qu'on fasse aussi cet effort-là, les journalistes, de faire du fact-checking dans les langues locales aussi. C'est très important qu'on explique aux gens en Hausa, en Zarma, en Tamashek, cette photo-là, en fait, voici ce qu'elle veut dire.
Allons à la pause pour écouter notre rubrique Causer, on revient juste après. coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être, à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses.
Dans l'espace santé et bien-être de ce dimanche, on va continuer avec les règles douloureuses. Que faire pour soulager vos règles douloureuses? Les symptômes des règles douloureuses sont fatigants et compliquent la vie quotidienne et professionnelle. Ces derniers touchent le bas-ventre, durent 2 ou 3 jours. Irradient parfois dans le dos ou les cuisses, causent parfois des maux de tête. Même si c'est normal et sans gravité, on souhaite évidemment de s'en débarrasser. Il existe heureusement différentes solutions pour calmer les règles douloureuses. Le premier geste possible est de prendre un médicament pour calmer les règles douloureuses. Il peut s'agir d'un analgésique recommandé par votre médecin ou sage-femme, comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Pour calmer vos règles douloureuses, vous pouvez aussi essayer de prendre un antispasmodique tel que l'espasphone si votre médecin vous le recommande. Si la douleur est vraiment intense chez les jeunes filles, notamment le paracétamol ne suffit pas à calmer les douleurs pendant les règles. À l'absence de contre-indications, vous pouvez essayer des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager vos règles. En plus d'un médicament antalgique, voici quelques astuces pour calmer vos règles douloureuses avec des remèdes naturels. Appliquez-vous une bouillotte ou un coussin chaud sur le bas du ventre ou du dos. Prenez un bain chaud pour détendre votre corps. Demandez à votre pharmacien une huile essentielle contre les règles douloureuses à appliquer sur votre ventre. N'utilisez jamais sans conseil médical. Certaines peuvent être allergisantes ou toxiques et leur usage est contre-indiqué si vous êtes porteuse d'une pathologie. Bougez, pratiquez un sport doux que vous aimez ou bien marchez tout simplement. Bonsoir amis jeunes, comme promis dans l'espace hygiène d'aujourd'hui, je vais continuer avec les bons gestes d'hygiène à faire pendant les menstrues. Geste numéro 1, nettoyer la vulve à l'eau claire, pas besoin d'y ajouter du savon. Les douches savonneuses trop fréquentes abîment la protection naturelle de votre peau. Coucou les irritations, les brûlures et les démangeaisons. Aux toilettes, n'oubliez pas de vous essuyer de l'avant à l'arrière afin d'éviter de faire entrer des germes digestifs dans votre vagin. Privilégiez les culottes en coton. Pendant les menstruations, il est conseillé de porter des sous-vêtements en coton afin d'éviter les irritations. En gros, les matières synthétiques favorisent la transpiration des zones intimes et peuvent développer des infections. Les strings peuvent aussi créer des frottements pendant les règles. Après chaque toilette, essuyez bien la zone intime avec un linge doux et propre afin d'éviter la prolifération des bactéries. Alors, quels sont les risques en cas d'infection ou en cas de mauvais gestes pendant les menstruations? Le plus gros risque, c'est aussi d'en faire trop. Il vous suffit de trouver le juste milieu pour éviter les infections dues au frottement, de la transpiration ou un changement de protection hygiénique trop peu fréquent. L'infection la plus fréquente reste la mycose. Si vous apercevez que votre vulve est rouge, que ça vous brûle ou ça vous démange, consultez votre gynécologue ou sage-femme qui vous prescrira bien sûr les soins adaptés. Amis jeunes, c'est tout pour la rubrique rose de ce dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas Mariam? Bye bye.
C'est ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlie, piou, piou. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout mon. C'est ma locomotive, chouchou, baby.
Chers amis de la FADA, nous sommes de retour. Je vous rappelle que nous sommes au studio Kalangu, précisément Dewar, où nous avons souvent l'habitude de poser notre FADA et nous parlons sur le thème « Comment les jeunes journalistes travaillent-ils au Niger après le coup d'État ?» Et le débat se poursuit avec Ousmane Mahmoudou, Kader et aussi Souleymane Bra. Et j'enchaîne avec mes questions. Kader, je te pose cette question-là. À quoi faut-il faire attention quand on est dans une telle situation selon toi?
Bon, en tout cas, je pense qu'il faut beaucoup plus faire attention à tout ce qu'on rencontre comme information, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu dis que tu vas prendre argent comptant, tout ce que tu ramasses, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu risques de te tromper. Et tromper encore l'opinion. C'est ça en fait, comme l'avait dit Brad tout à l'heure, un journaliste, son travail c'est de collecter, traiter et diffuser l'information. Donc du coup, surtout maintenant quand tu prends pour notre cas, à la télévision, c'est les images qui parlent. Donc du coup, chez nous là, c'est très difficile de s'abstenir à diffuser des messages comme, ramassés comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut, quand tu croises une information qui nécessite quand même une vérification, il faut aller dans la vérification de l'information là. Et si ça nécessite d'être traité, diffusé, tu traites. Mais au cas échéant, on laisse tomber, on traite des éléments. C'est ça. C'est pourquoi je voulais dire qu'ici, nous, de notre côté, quand même, il n'y a pas eu grand changement. D'autant plus qu'on s'est juste adapté à la situation.
Est-ce que alors, M. Kader, on peut dire qu'être journaliste à la radio et être journaliste à la télé, c'est très différent et que c'est plus difficile d'être journaliste à la radio qu'à la télé?
En fait, je ne dirais pas qu'il y a une très grande différence, mais quand même, il y a une petite différence. Puisque ici, comme je le disais tantôt, à la télévision, tu commentes les images que tu montres à tes téléspectateurs. Mm-hmm. Il y a les images qui parlent d'elles-mêmes, comme on l'avait dit. Mm-hmm. Et à la radio, on commente, on n'entend que la voix. Ça dit qu'il y a une petite différence entre les deux. Mais je ne dirais pas que l'un est plus difficile que l'autre, quand même, puisque c'est le même cheminement, c'est le même travail. Tu vas chercher, tu vas sortir, aller collecter l'information, traiter l'information et diffuser. Donc c'est le même processus pour... Vous voyez, non?
Oui.
Voilà.
Alors, Monsieur Bra, je vous repose la même question. À quoi faut-il faire attention quand on travaille dans cette situation?
Oui, c'est surtout les infos diffusées. Bon, vous savez, surtout au niveau des médias, il y a quand même l'utilité même de l'information. Ce n'est pas parce qu'il y a assez d'actualité, parce que les jeunes diffusent tout, que les médias peuvent aussi traiter,
tout prendre et diffuser.
Je pense que c'est aussi important de voir ce qui est utile et ce qui est important pour le public. Parce que ce n'est pas... Si sur les réseaux sociaux, chacun publie, il est aussi producteur et consommateur de contenu, mais au niveau des médias, il y a quand même l'utilité du public à l'information. Mm-hmm. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, dans ce que les gens publient, on doit aussi faire attention. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer un compte au nom du Sidi Kalangou, et moi, en tant que média, je peux me dire que ça, c'est l'information qui est venue du Sidi Kalangou, de Niger 24, ou d'un autre média. Donc, et même par rapport à ça, je pense qu'on doit faire attention de savoir exactement est-ce que c'est le compte réel de ces médias. Si par exemple quelqu'un peut attribuer une information à France 24, à un autre média, peut-être international, dit que ça vient de là-bas, et moi en tant que journaliste, je peux prendre cette information pour venir ne serait-ce qu'annoncer une dépêche ou une verbe, dire que bon, voilà, selon une dépêche de France 24 ou d'un autre média, alors que c'est quelqu'un qui a créé un compte donc au nom de France 24. Quelqu'un peut même, aujourd'hui avec les war routes, quelqu'un peut même prendre la voix de Ousmane ou de Kader, faire un audio, dire que c'est Kader ou c'est Ousmane qui a parlé. On peut prendre ça comme crédible, comme vrai. Donc tout ça là, ça nécessite une prudence, ça nécessite une vigilance. Il faut toujours se questionner. C'est-à-dire qu'il faut toujours se questionner, il faut prendre ça avec une certaine mesure. Et c'est pour cela qu'il faut toujours vérifier. Et au-delà, comme dans les médias, ce n'est pas un travail personnel, c'est une chaîne. Donc ça nécessite vraiment ce travail au niveau de toute l'équipe.
Okay.
Et je pense que ça évalue la crédibilité d'avoir du journaliste lui-même et de son média, de donner une information vraie qui est aussi crédible.
Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Ousmane Mahmoudou. Comment garantir la fiabilité de son travail en cette situation, surtout vous qui faites la vérification des faits au studio Kalangou?
Alors, effectivement, très bonne question. Alors, moi, je pense que les journalistes, ils doivent beaucoup faire attention à la neutralité. Il faut qu'on soit très neutre et il faut aussi que les journalistes essaient de ne pas succomber au buzz. Parce que souvent, on voit de l'information qui paraît tellement plausible qu'on prend, qu'on partage, qu'on commente. Et quand vous êtes journaliste, les gens vous croient parce que vous êtes une voix qui porte. Donc, il faut beaucoup faire attention au type d'information qu'on va traiter, collecter. Et sur le terrain même, quand on part faire des reportages, couvrir un événement quelconque, il faut faire attention à rester vraiment le plus neutre possible. C'est vrai que chacun, moi j'ai mon avis personnel sur la situation, mais c'est pas ça qui intéresse les auditeurs, c'est pas ça qui va intéresser les lecteurs. C'est vraiment notre manière à nous de restituer l'information avec le moins d'émotions, en tout cas ce qu'on a en nous possible. Il faut que la diffusion soit la plus neutre possible.
Alors merci, allons à la pause pour écouter cette fois-ci une musique et on revient juste après. Encore de retour dans notre émission. Si vous venez de nous prendre en cours, le thème d'aujourd'hui, c'est comment les jeunes journalistes travaillent-ils au Niger après le coup d'État. Et après cette pause musicale, notre émission tire presque à sa fin. Mais avant cela, voici une toute dernière question pour vous, cher invité. Kader, je continue avec toi. Quel conseil as-tu à donner aux jeunes et futurs journalistes qui nous écoutent en ce moment, quand ils seront un jour aussi confrontés à une telle situation?
Bon, vraiment, ça c'est pertinent quand même. Le conseil que j'aurais à donner quand même aux jeunes et futurs journalistes, c'est d'être quand même impartial dans le traitement de l'information surtout. Et d'être vigilant aussi. Éviter le sensationnel. Parce que c'est le sensationnel qui conduit le journaliste à des traitements un peu, je ne sais pas comment qualifier ce traitement, un traitement un peu différent du traitement d'un journaliste. Évitons le sensationnel, puisque quand tu dis qu'il y a une information qui est là, tu vas traiter cette information de la façon dont toi ça te plaît ou ça plaît quand même à quelqu'un que tu voulais quand même vendre l'image, mais tu vas encore tromper davantage le public, tes auditeurs. Tu vois, donc c'est à éviter. C'est l'émotion, c'est le sensationnel surtout qu'il faut éviter dans le journalisme.
Merci. Monsieur Brun, en bref, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes journalistes qui seront un jour aussi confrontés à une telle situation?
Oui, c'est de se dire que c'est un métier qui a ses règles, qui a ses principes. Donc, la première garantie ou la sécurité d'un journaliste, c'est effectivement de respecter les principes de son métier. Et je pense que si on respecte les codes d'éthique et de déontologie, comme je l'ai dit, on ne peut pas tomber sur ces pièges de la désinformation. On sait qu'il y a une information, quand même, il faut d'abord la vérifier auprès des sources. Maintenant, par rapport au traitement aussi, tout a été dit dans notre charte, dans notre code, dans tout ce qu'il y a comme texte au niveau de la profession. Donc vraiment, ce n'est pas se laisser influencer par les internautes, les activistes ou les blogs. C'est pas parce que tu as vu que quelqu'un a publié une information qui va toi-même se précipiter à toi en tant que journaliste pour la partager avant de la publier ou de faire cette publication sienne. Donc ça, ce n'est pas vraiment important. Un journaliste, il se questionne, il vérifie l'information avant de la diffuser. Donc vraiment, ce réflexe de partage, cette instantanéité. Donc je pense que les journalistes doivent être prudents, ils doivent être regardants pour sa crédibilité, pour la crédibilité de son média aussi, pour aussi les droits qu'il a de donner l'information au public. Il ne doit pas se lancer dans cette course effrénée pour balancer des informations. Mais au contraire, c'est à lui de donner la vraie et la bonne information, puisque de toutes les façons, les gens vont écouter les médias pour savoir effectivement si cette information est vraie ou elle est fausse.
Merci beaucoup. Je termine avec vous, Ousmane Mahmoudou. Quel est votre conseil?
Alors, moi, mon conseil, sans paraphraser mes collègues, pour un journaliste, je pense que la phrase essentielle, c'est de douter de tout. Mais il faut absolument douter de tout. Quand on vous donne une information, quel que soit le canal, il faut douter de ça. Parce qu'après, c'est quelque chose, un journaliste, il est censé, ou un média, être crédible et fiable. Et la fiabilité, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. C'est quelque chose qu'on va mesurer sur une période. Peut-être, je prends un exemple, juste comme ça, je ne sais pas. Un média crédible, c'est peut-être un média, peut-être si on regarde les 100 dernières années qu'il a passées, combien de fausses infos il a données. Pareil pour un journaliste, sur les 100 derniers éléments que j'ai traités, combien étaient biaisés ou pas. Donc c'est ça la fiabilité. Vraiment, il faut douter de tout et il faut beaucoup s'informer et ne jamais cesser d'apprendre.
Merci. Sur ce, allons retrouver CNO 50% avec la chronique du jour.
Chers amis, bonsoir. Dans ce rendez-vous du dimanche, nous allons poursuivre notre sujet sur le dialogue national inclusif. Pour rappel, hier, nous avions ensemble découvert ce qu'est le dialogue national inclusif et ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment réussir un dialogue national inclusif. Le succès du dialogue national inclusif repose sur l'engagement et la participation active de toutes les parties. Les gouvernements, les organisations civiles, les leaders religieux, les jeunes, les femmes et d'autres segments de la population ont tous un rôle à jouer dans ce processus. L'objectif est de transcender les clivages et de créer un sentiment d'appartenance à un projet commun, renforçant ainsi la stabilité et l'unité de la nation. Le dialogue national inclusif offre un espace pour la gestion constructive des différences et des conflits. En encourageant le respect et l'empathie, il crée un climat propice à la recherche de compromis et des solutions durables. Les participants apprennent à écouter activement et à reconnaître les points de vue divergents tout en cherchant des terrains d'entente. Cependant, organiser un dialogue national inclusif n'est pas sans défi. Il exige une planification minutieuse, une communication transparente et des garanties de représentation équitable. De plus, il est important de s'assurer que les résultats des discussions se traduisent en actions concrètes. Sans mise en œuvre effective, le dialogue risque de perdre sa pertinence et sa crédibilité. Une étape cruciale du processus est la transformation des discussions en actions concrètes. Les résultats du dialogue doivent être suivis d'efforts concrets de mise en œuvre pour qu'il ait un impact réel sur la société. Les participants, les organisations civiles et les institutions gouvernementales doivent collaborer pour transformer les recommandations en politiques et en programmes tangibles. En conclusion, chers auditeurs, le dialogue national inclusif représente une opportunité précieuse pour notre société. Il offre un espace pour le partage d'idées, la résolution des conflits et la consolidation de notre unité. Voilà, c'est tout, chers auditeurs. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet.
Merci Seno et cette émission est à sa fin. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de ces 35 minutes. C'était un plaisir et vous avez écouté les conseils que nos confrères vous ont donnés. En tant que jeune journaliste, il faut être impartial. Maintiens écoute comme Bordino Borg sans beaucoup diffuser et que après ça te crée aussi des problèmes. J'espère de tout cœur que ces conseils vous seront utiles. Passez une bonne fin de week-end. On se dit à la semaine prochaine.